Justement, on va embrayer sur le pouvoir d'achat avant de revenir sur le SMIC. On en a parlé. Le pouvoir d'achat, selon plusieurs sondages, c'est en tête des préoccupations des Français, d'autant que l'inflation est galopante, hein, 4,8% en avril dernier, un niveau inégalé depuis 37 ans, selon l'INSEE. En parallèle, il y a aussi le niveau de vie, avec une population qui a un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. En France, 14,5%. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le pouvoir d'achat? À qui on va faire payer l'inflation, notamment?
Est-ce que ce sera au patron, Léo Alta, que vous allez porter cette charge?
Alors nous avons un programme extrêmement volontariste sur cette question du pouvoir d'achat. Je suis content d'entendre que l'idée d'un grand plan de relance public en situation de crise est une solution qui a permis à la France d'éviter le naufrage, puisque c'est exactement ce que nous proposons.
Et nous l'avons fait à hauteur de 100 milliards d'euros, et vous le savez comme moi.
Tout à fait, c'est pour ça que je suis toujours étonné que vous critiquiez notre programme qui propose justement de renforcer encore cet effort-là et d'aller de l'avant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que nous venons de traverser une crise sanitaire, la crise du Covid, où le gouvernement d'Emmanuel Macron a dû effectivement renoncer à un certain nombre de ses dogmes libéraux pour aller vers le « quoi qu'il en coûte » dont vous parliez tout à l'heure. Et on s'est rendu compte que ça avait fonctionné. Et que ça avait fonctionné, en partie en tout cas, et que ça avait protégé un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de Français de la débâcle. Eh bien nous, ce que nous proposons face à la crise qui est encore là, contrairement à ce qu'on nous dit, ce n'est plus une crise sanitaire, même si elle continue encore, il y a effectivement une crise économique forte, une crise sociale, une crise politique également. Nous proposons de poursuivre ces investissements massifs et ce soutien à la fois aux entreprises et aux particuliers. Donc c'est pour ça que nous proposons une augmentation massive des salaires. Alors je sais qu'à chaque fois qu'on propose d'augmenter les salaires, je suis retombé l'autre jour sur des tribunes patronales de 1920 qui disaient que si on passait aux 12 heures, ça allait être l'effondrement absolu de l'économie. On a eu la même à la sortie de la guerre quand on nous a expliqué que le passage aux 40 heures hebdomadaires, etc., le 39 heures en 80. Donc il y a toujours ces cris-là. Mais si on accompagne les entreprises et si on les soutient, et si on remplit le carnet de commandes, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça.
On va en parler des salaires, mais par rapport à ces 17,1% de la population de la seconde circonscription des Alpes-de-Provence qui sont sous le seuil de pauvreté.
Par rapport au seuil de pauvreté, je rappelle que dans notre programme, il y a la proposition, alors du côté des jeunes comme du côté des anciens, de porter un minimum vieillesse et une allocation d'autonomie à 1063 euros par mois. C'est pas un chiffre qui sort du chapeau, hein. C'est justement le seuil de pauvreté, de manière à ce que tout le monde soit au-dessus du seuil de pauvreté. Le deuxième point, c'est la revalorisation du SMIC et donc également de la retraite planchée. Et puis le troisième point, nous proposons, nous, un programme très volontariste de blocage des prix. Alors le bouclier dont parlait Monsieur Castaner, effectivement, c'est une sorte de blocage des prix apporté d'en haut. Nous proposons le contraire, c'est-à-dire que nous proposons que les entreprises énergétiques, par exemple comme Total, qui ont fait des milliards de bénéfices, emportent le prix. Donc là, pour le coup, on n'est pas d'accord là-dessus, c'est pas la puissance publique qui va emporter le prix, ce sont les entreprises, et ce que nous appelons les grandes entreprises, et ce que nous appelons les profiteurs de crise.
Par rapport au niveau du SMIC, pardon, je voudrais juste réagir, la NUP, pour la NUP, il faut porter immédiatement le SMIC à 1500 euros net par mois. Vous expliquez quoi aux 96% de TPE et PME qui devront augmenter les salaires
dans le département?
Eh bien, nous expliquons justement que nous allons les accompagner et que nous allons les soutenir. C'est-à-dire qu'il va y avoir, encore une fois, je le redis puisqu'apparemment ça n'a pas été entendu, une réforme très claire de la fiscalité des entreprises, avec le but très clair, c'est d'amener les TPE-PME à payer moins d'impôts et par contre d'obliger les grandes entreprises qui échappent la plupart du temps à l'impôt à en payer plus et donc de récupérer l'argent nécessaire là où il est.
Christophe Castaner, cette question, 17,1% de la population de la circonscription des Alpes-de-Provence sous le seuil de pauvreté, on leur dit quoi? On fait quoi et rapidement?
D'abord, on agit et on a agi. La prime pour l'emploi, par exemple, la prime d'activité. Je rencontrais hier après-midi à Manosque une jeune femme, jeune maman, cariste dans une entreprise frigorifique qui travaille à moins 20 et qui soulignait que par rapport à son salaire, elle avait 175 euros par mois liés à la prime d'activité. Et je lui indiquais aussi que comme elle était mère isolée, nous augmenterons dès septembre de 50% l'allocation mère isolée, parce que je pense qu'il y a des publics qui vivent très difficilement la réalité. Et même si, et c'est la discussion que j'avais avec elle, elle a connu une augmentation de 175 euros par mois, ça reste la galère. Et je l'entends bien. Je voudrais quand même préciser que la France est au niveau européen le deuxième pays le moins touché avant la Finlande, qui est dans une situation meilleure que nous, par rapport au taux de pauvreté. Et donc la France est quand même un pays qui, en matière de dépenses sociales, amortit ces situations d'inégalité. Et donc si nous devons maintenir cela, il faut produire de la richesse. Moi j'entends dans le programme de la NUP le fait qu'on va donner 1063 euros à tous les jeunes de 18 ans et à tous les Français. J'entends qu'on augmente le SMIC à 1500. Et à chaque fois on nous explique...
C'est pas une bonne idée ?
Mais, moi je suis un peu comme vous. Moi... Quand j'ai une rémunération, je suis comme une famille de Fort-Calquier. Quand j'ai une rémunération de 2 000 euros par mois, je n'en dépense pas 4 000. Or, le problème de la NUP, et tous les économistes, y compris les études de tous les journalistes le disent aussi, le problème de la NUP consiste à dire j'ai 2 000 euros par mois, mais je vais dépenser 4 000. Mais il y a une bonne nouvelle. Les riches vont payer.
Non, il y a une autre bonne nouvelle, Monsieur Castaner, c'est que les calculs de nos économistes, dont vous avez le droit,
on en a parlé,
dont vous avez le droit de renier
la déontologie. Je renie aucune validité. La déontologie fait que, en principe, on ne s'auto-évalue pas soi-même.
Mais alors, il faudrait arrêter d'être évalué par Terra Nova de votre côté, mais c'est un autre problème.
Mais pas seulement l'Institut Montaigne, tous les journaux, les Échos, Challenge.
Oui, voilà. Très bien. Alternative économique.
Même alternative économique est sévère. Si je vous assure, même alternative. Alternative économique est sévère
la dernière
aussi.
Tribune qui remet justement.
Alors, vous parlez
en cause...
de tribune. Attendez, les tribunes, ça n'a rien à voir. C'est un éditorialiste ou un militant qui
la
fait.
La seule fois où ils ont critiqué le programme de la NUP, c'était une tribune de Sterdignac et qui depuis a été battue en brèche. C'est-à-dire que nous, ce que nous proposons effectivement.
On prend ce qui nous arrange et pas ce qui nous ennuie.
Bah oui, tout à fait. Vous faites la même chose.
Non.
Dans notre programme, il y a effectivement une augmentation massive des dépenses publiques, mais qui est compensée par une augmentation massive des recettes publiques. Et nos calculs amène à... Alors, je sais que le coefficient multiplicateur retenu par l'Institut Montaigne est très nettement en dessous de celui de la Banque de France. Nous, le nôtre aussi est en dessous de celui de la Banque de France, puisque la Banque de France parle d'1,3. Nous préférons calculer à 1,18. L'Institut Montaigne, je ne sais pas pourquoi, préfère 0,8. C'est-à-dire qu'ils nous disent que quand on investit un euro d'argent public...
En l'espèce, je ne vais pas parler de l'Institut Montaigne. C'est vous qui avez parlé tout à l'heure de Terra Nova. Parlé de Terra Nova, je vous ai cité Terra Nova.
Juste deux secondes. Nous avons un calcul avec un coefficient multiplicateur sur l'investissement public qui est, je le répète, inférieur à celui retenu par la Banque de France et qui fait qu'à l'issue de notre premier budget, nous sommes à l'équilibre et nous sommes même avec 17 milliards d'euros de rentrées supplémentaires. Donc on peut le remettre en cause, on peut en discuter, mais ne dites pas que nous dépensons plus d'argent que nous n'en gagnons, puisque nous proposons au contraire de gagner plus d'argent que nous n'en dépensons.
Le débat est bel et bien là, alors je vais vous lancer certainement sur un autre débat. Il va falloir quand même faire court et j'en suis désolée, mais les retraites. Alors là aussi, les retraites, vous n'êtes pas du tout du même avis, à la fois entre la NUPES ou que ce soit ensemble. Alors, les retraites, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on finance à la fois les retraités et puis les actifs aussi qui payent les charges ? Léo Valter.
Alors, je sais que le calcul qui est fait et qui est avancé, c'est on vit plus vieux parce qu'on donc il faut travailler plus longtemps. Nous faisons le pari inverse, qui n'est pas un pari d'ailleurs, qui est un calcul très réfléchi, qui est que nous vivons plus vieux parce que nous travaillons moins longtemps. La réduction du temps de travail, que ce soit dans la semaine, que ce soit dans l'année, que ce soit dans la vie, est un combat qui est porté depuis plus de 100 ans et qui a toujours été de l'avant. Nous allons là en recul. Alors nous proposons les 35 heures réelles, puisque nous proposons de revenir aux heures supplémentaires qui soient immédiatement fiscalisées, effectivement, et chargées de manière à ce que les 35 heures soient réelles, et nous proposons d'aller vers les 32 heures. Alors, je sais qu'on va me dire, mais tout de suite, etc. Non, nous avons un programme qui est très construit, et nous, notre maître mot, c'est la planification, c'est-à-dire de travailler sur le long terme et d'accompagner la société vers cette réforme qui nous semble essentielle. De la même manière, il nous semble essentiel de travailler travailler moins dans l'année. Nous proposons une sixième semaine de congés payés. Et puis, je rappelle que le dernier pays, hein, qui est un pays qu'on connaît très 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 à gauche, qui a proposé cette réforme-là, c'est la Suisse. Et nous proposons effectivement de travailler moins dans la vie. Donc moi, j'ai des parents qui sont partis à la retraite à 60 ans. J'en suis extrêmement heureux parce que j'ai pu en profiter, ils ont pu profiter, ma mère peut encore en profiter aujourd'hui d'une retraite bien méritée. Aujourd'hui, on nous dit 65 ans, sachant qu'on a un taux d'emploi des seniors au-dessus de 54 ans qui est de 56%. Ça veut dire qu'il y a 44% des gens qui sont en fait en non-emploi. Donc si on augmente la retraite à 65 ans, en fait, la chose qu'on fait, c'est qu'on propose de travailler 3 ans de plus, mais surtout, on propose à des gens de ne pas travailler 3 ans de plus.
On travaille moins dans la vie, on travaille moins dans la semaine, on travaille moins dans le mois, on paye plus au niveau des salaires. Comment vous assurez l'équilibre ?
Ben parce qu'on a multiplié par 20 la productivité, madame, depuis les années 70. Donc, notre pays n'a jamais été aussi riche de son histoire. Simplement, le problème, c'est que la richesse a changé de poche. Et par exemple, les 5% du PIB qui sont nécessaires pour faire notre réforme des retraites, on peut le trouver de deux manières. Je vous donne deux exemples, hein, mais il y en a d'autres. Le premier, c'est que 5 points de PIB, c'est exactement la part qui est passée des poches du travail aux poches du capital ces 5 dernières années. C'est-à-dire que nous, ce que nous proposons, c'est que ça revienne dans les poches des travailleurs et que donc ça finance leur retraite.
Taxer le capital.
Il y a une autre, tout à fait, mais vous savez quoi ? Taxer le capital comme les revenus. C'est même pas taxer plus que les revenus, c'est comme les revenus. Parce que le capital paye aujourd'hui beaucoup moins d'impôts que le salarié moyen. Et la deuxième possibilité, et les deux financent, hein, donc là je finance deux fois les retraites avec ces deux propositions, c'est simplement d'assurer enfin l'égalité homme-femme au niveau des salaires. Si nous amenons toutes les femmes de ce pays au même niveau que salaire que les hommes qui occupent le même type d'emploi, eh bien le surplus de cotisation sociale, justement, eh bien ça règle le problème des retraites. Je voudrais juste finir sur un
rapidement
point. Le Conseil d'orientation des retraites dit que notre système est à l'équilibre jusqu'en 2070 et qu'après ça devrait encore s'améliorer. Donc je crois que ce problème est un faux problème qu'on nous annonce, et en tout cas nous tenons absolument à la retraite à 60
Christophe
ans.
Christophe Castaner, faux problème, ces retraites. Vous proposez l'allongement de la durée de cotisation. C'est un faux problème.
Non, mais moi, j'adore le bonheur. Travailler moins, 32 heures, partir à la retraite à 60 ans, augmenter fortement les retraites, tout ça, c'est formidable. Il n'y a aucun pays au monde qui n'y avait pensé avant. Il n'y a aucun économiste au monde qui y a pensé. Et donc, on peut imaginer que la NUPES a trouvé la martingale magique. Mais il faudra le dire, 96% de chefs d'entreprise des Alpes-de-Haute-Provence à moins de 10 salariés qui ne sont pas le grand capital dont on parle. D'ailleurs, on pourrait même faire un peu de macroéconomie et s'apercevoir que la part du grand capital qui détient la propriété en France est largement inférieure par rapport à des dizaines de pays autres. Et qu'en plus, depuis 2000, elle a baissé, elle est passée de 25% à 22%. Et on est sur une dynamique de baisse et c'est bien ainsi. Et donc moi, je ne crois pas qu'il y ait de l'argent magique en disant qu'il faut faire payer les riches. Au bout du compte, on l'a vu d'ailleurs à plusieurs moments de notre propre histoire, au bout du compte, c'est toujours les Français qui payent. Et ce sont les classes moyennes qui payent. Aujourd'hui, il y a un système simple. La retraite, on est tous d'accord, est payée par les travailleurs. Il y a quelques années, il y avait 4 travailleurs qui travaillaient pour payer la retraite d'un retraité. Aujourd'hui, il y a à peu près 1,6 travailleurs qui paye la retraite d'un retraité. Alors moi, j'entends bien qu'on puisse travailler moins, augmenter les retraites et travailler moins aussi dans la semaine. Ce que je sais, c'est que l'évaluation, là aussi, certainement contestée par la NUPES, de cette mesure à 60 ans et à 40 ans d'annuité coûte à peu près 86 milliards d'euros. Et que ces 86 milliards d'euros, c'est un fantasme total, mais c'est même un mensonge que de dire on va le prendre aux riches. Parce que de toute façon, les riches,
ils restent. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Oui. À qui on va le prendre, ça, j'ai toujours pas bien compris.
Augmentons les salaires des femmes.
Non, mais
ça suffit.
Une chose est simple, c'est quand vous avez un travailleur. Un retraité pour 1,6 travailleur, il faut dire aux 1,6 travailleurs qu'ils vont chaque mois verser 800, 900 euros pour arriver à mon 1600 euros
c'est
d'équilibre.
Ah
non, mais c'est simple. Faux. Le 1,6, c'est faux ?
Non, le 1,6, c'est vrai.
Donc
mais
on
c'est
est
pas
d'accord
qu'on va demander les 800 euros.
Ah mais c'est pourtant. Alors vous remettez totalement en cause le principe de la retraite par répartition.
Non, pas
je rappelle
du tout
que la retraite par répartition dans notre pays, elle est financée par les travailleurs.
Je rappelle
et par
également
le travail.
Que vous avez dit l'autre jour, enfin c'était pas vous, mais que effectivement les retraites étaient à l'équilibre et que ça allait rapporter plus d'argent et que cet argent-là serait dépensé ailleurs que pour les retraites.
Ah mais alors attendez, donc, alors là on peut en parler. Moi j'assume parfaitement le fait que nous considérons que pour améliorer notre système de santé dans le pays, pour améliorer notre système de solidarité dans le pays, pour mettre en place par exemple le versement des allocations, des droits dès la source plutôt que d'attendre un certain nombre de temps, il faut globalement travailler plus dans notre pays. Et d'ailleurs, c'est pas totalement original. Quand on regarde l'Europe. Le Royaume-Uni, on est à 65 ans. La Belgique, on est à 67 ans. L'Allemagne, on est à 65 jusqu'à 70 ans. L'Italie, alors j'ai vu que la Suisse était un modèle aussi de référence de M. Walter, mais l'Italie, on est à 65 ans.
D'un point de vue démocratique, en tout cas.
Oui, mais aussi d'un point de vue économique. Et il y a une dynamique d'entreprise, notamment des banques, qui fait la richesse de la Suisse et qui permet à la Suisse d'être généreuse. Et je voudrais juste finir mon tour d'ordre.
60. Chez nous, alors.
Ah, alors ça, c'est bizarre que vous n'ayez pas compris, mais je vais répondre à votre question. Et donc, du coup, je finis. Rapidement. L'Italie, 65 ans. L'Espagne, 65 ans. Et il n'y a qu'en France où on pourrait décider de dire, finalement, c'est 60 ans. Et on va travailler moins dans la semaine et on aura plus de vacances. Juste, on peut rêver et on peut faire rêver les gens, mais ça n'est pas honnête. Alors je vais répondre très concrètement à votre question. Je le dis, travailler plus jusqu'à 65 ans, progressivement, pendant 10 ans. Si on veut augmenter les minima sociaux à 1100 euros, alors là, NUPES, qui est toujours plus généreuse, c'est Monsieur Plus de Balzen, va monter à 1500. Mais moi, je sais qu'il faut le payer. Si on veut monter les pensions minimales à 1100 euros, et ben du coup, je pense qu'il faut travailler plus. Et donc, je crois, et je le dis et je l'assume, je sais que c'est impopulaire, mais si on veut maintenir notre niveau d'engagement social dans notre pays, si on veut financer, et on doit le faire, tout ce dont on parle, il faut travailler plus. Donc c'est l'objectif du plein emploi, et nous pouvons l'atteindre, mais c'est aussi en 10 ans, une montée progressive vers l'âge de 65 ans.
Merci messieurs, on va marquer une courte pause, simplement un point sur les temps. Christophe Castaner, 15 minutes 26, Léo Walter, 16 minutes 26, une minute d'écart. Donc on marque une courte pause, à tout de suite sur Alpes.